Bienvenue à toutes. Au nom du groupe LOX, on est très très heureuse de vous voir nombreuses pour cette dernière après-midi de débat et d'intervention. La première table ronde sera sur la montée des extrémismes en Europe, extrémisme de droite, évidemment. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je fais partie du groupe LOX depuis 2011. Je m'appelle Ariadine. Tout à l'heure, on parlait de questions de génération. Bon, ben voilà, je crois que je suis la plus jeune. Et voilà, ce sera ma première modération. Alors, j'espère que vous serez indulgente. Voilà. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce débat sur la montée des extrémismes en Europe? En fait, on a proposé ces interventions, cette thématique, dès 2012. Bien avant qu'il se passe les manifestations pour le mariage, contre le mariage pour tous, bien avant le meurtre de Clément Méric, bien avant les agressions et le ciblage des femmes voilées, en tout cas celles les plus récentes. Et en tout cas, bon, on voit que malheureusement, notre débat s'inscrivait pleinement dans une actualité qui allait venir. Donc voilà, dans un premier temps, on va, avec Morouni, qui fait partie du groupe LOX aussi, cofondatrice, vous faire une petite introduction sur notre analyse de pourquoi on parle de ça, de la montée des extrémismes en France. Bon, ben, je vais présenter les autres aussi. En fait, voilà, dans un premier temps, on va... introduire l'analyse LOX de la montée des extrêmes droites. Et on verra que plus qu'une montée, c'est une évolution. Ensuite, avec Fatima El Tayeb, qui est à côté de moi, nous allons plutôt voir un cadre... elle va avoir une analyse plutôt globale, dans un cadre européen, d'un activisme off-color, LGBT off-color, et son analyse des extrêmes. Ensuite, nous aurons Shiva, de l'Allemagne. On aura une approche plus... elles auront des approches plus localisées dans des pays, donc Shiva à l'Allemagne. Et puis ensuite, Marthe, qui habite à Bruxelles, qui représente l'association Les Identités de Baobab et qui est chargée de la communication du festival Massimadi. Voilà, donc elle développera plus ce que c'est que ce festival. Et voilà, donc on sera dans des approches plus localisées.
Donc déjà, bonjour, merci de vous voir si nombreuses à ce débat. Si nombreuses parce qu'on le voulait, on a pris une grande salle exprès pour marquer l'urgence, parce que le Front National et les extrêmes droites en Europe progressent de façon fulgurante. Un petit peu partout, on le voit notamment, je peux parler un petit peu de la Grèce, on le voit en Grèce avec des attaques spécifiques sur tous les immigrés. Et donc voilà, je vais vous faire un tout petit historique, et sans vouloir vous plomber, parce qu'effectivement, vu que depuis 84, je vais remonter à 84, on voulait parler en fait de l'évolution du Front National et pas forcément de sa progression et ni une remontée, juste une évolution. Parce qu'en 84, il y avait déjà eu des députés à l'Assemblée nationale avec un groupe très, très virulent qui combattait l'immigration générale et le regroupement familial. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Avec Stirbois, avec la maire de Dreux, avec donc qui quand même posait les bases de ce qu'on vit en ce moment. C'est pour ça qu'on n'est absolument pas des voyantes, bien qu'on a prévu ce débat en amont. En fait, en analysant le Front National et en analysant un peu leur politique généraliste, on voyait bien que ça allait aboutir à ces exactions-là, au meurtre de Clément Méric notamment, et et au meurtre de beaucoup de gens, parce qu'en fait, à chaque décennie, à chaque montée du Front, à chaque progression du Front National, notamment à Marignane, à Vitrolles, et je me souviens Toulon, Orange, pardon, il y a eu quand même des violences spécifiques, notamment à l'encontre des couleurs d'affiches. D'affiches des gens de gauche ou voilà. Ouais. Il faut que j'aille droit au but. C'est un peu le risque. Alors, je vais droit au but. Le Front National a quand même a gardé une position très virulente au niveau des politiques d'immigration, mais a aussi, on assiste là, à l'homonationalisme, à une espèce d'ouverture vers un discours de gauche, vers un discours pour draguer, faire venir en son sein des personnes LGBTI et donc élargir leur électorat. On le voit bien depuis 1984, la progression, et depuis 2002, là où il est arrivé au second tour, Jean-Marie Le Pen, tout en sachant qu'il ne voulait pas forcément le pouvoir, mais il a quand même progressé de façon énorme. Moi, je combats le Front National depuis assez longtemps et je me suis toujours demandé comment me débarrasser de Jean-Marie Le Pen. Je ne pensais pas du tout que j'allais devoir combattre sa fille. Bon, je vais juste parler là, je vais aller assez vite parce que en fait, l'important... c'est d'avoir aussi les discours des autres copines à la table. Je vais faire juste un petit point sur le discours des LOX, notamment nos positions politiques. Donc évidemment, on combat le Front National sur des idées, sur leurs idées spécifiques, genre le retour des femmes au foyer, une nation blanche et tout ça. Seulement, on fait aussi attention à ce qu'on parlait de l'homonationalisme, à ce discours dans le milieu LGBTI qui y a un racisme décomplexé depuis Guéant, depuis Valls, depuis assez longtemps, depuis à peu près Sarkozy, sur les deux mandats. Les deux mandats de Sarkozy, donc voilà, et donc du coup j'ai un peu perdu le fil, mais je suis en train de le reprendre. L'homonationalisme, merci beaucoup. C'est de montrer les positions, d'enlever comment on dit déjà ? Je le sais par cœur, je suis vraiment désolée. D'instrumentaliser toutes les. C'est de dire qu'en fait, on peut être raciste, blanc, gay, tout ça, et être aussi au Front National, et de pouvoir se dire c'est très bien, on est chez nous, et on investit tous les milieux. Voilà. Nous, on combat ça, puisqu'on est des lesbiennes de tous les pays, au LOX, et qu'on est précaire, et qu'on est féministe, et qu'on est lesbienne politique. Et donc, on est à l'intersection de toutes ces luttes-là. Et on est très, très vigilante sur la remontée du Front National et sur la progression des politiques racistes, et même au sein de nos amis potentiels.
Voilà pour l'introduction. On pourra revenir après sur le cadre plus précis. Là, c'est toujours dur de commencer. On va passer tout de suite à l'analyse de Fatima Altaïeb, qui est à côté de moi. Je te laisse commencer tout de suite.
Merci. Pardonnez-moi pour parler en anglais, mais mon français est trop mal, alors it's better if I speak English. And I appreciate the translation, and I try to stick to the script as much as possible, But just briefly, I want to very much thank the Locks for inviting me. I feel really honored. Speaking of generations, I'm part of the older generation. I was active in queer of color activism in Germany and the Netherlands in the 80s and 90s. And then in the 2000s, I moved to the United States. And I'm very excited and grateful to see the new generation of activists here who do really, really amazing work. So, but back to the text. Right-wing movements are on the rise in all of Europe, from the Greek Golden Dawn to white supremacist groups in Sweden. Their violence is directed primarily at so-called migrants, that is, communities of color, in particular Black, Muslim, and Roma, all groups that rather than being recent additions have been present in Europe for centuries but are still perceived as foreigners. Recent examples would be the so-called nationalist, socialist underground in Germany, which murdered at least 10 Muslim men over the last decade, or Anders Breivik in Norway, who committed a massacre slaughtering more than 70 people, most of them teenagers, in reaction to the so-called Islamization of Europe. Strangely enough, this right-wing violence is not qualified as terrorism, but as isolated acts committed by disturbed individuals or fringe groups, in stark contrast to the perception of the violence by, say, Michael Adebolajo, who murdered a British soldier, or Mohamed Merah, who killed 7 people in Toulouse. This violence immediately fits the framework of Islamic terrorism threatening Europe's core, a terrorism that in turn is seen as indicative of Muslim culture threatening Europe's stability and identity in a way that racist violence is not seen as indicative of white European culture threatening its racialized populations. This difference in perception, in my opinion, does not confirm that Islamic violence is a greater threat than right-wing violence, but that the targets of racial terrorism, people of color, are still not considered fully European. In other words, non-extreme acts of racism are seen as reasonable, normal, justified, rather than as enabling racist extremism. As disturbing as white supremacist violence is, this mainstreaming of racism, not only in conservative and neoliberal circles, but also among left, feminist, and queer organizations, is a threat. This normalized racism is made possible through the belief that Europe, in particular West Europe, is the center of progress, liberty, and human rights, a space of liberation, not oppression. That is, if Europe marginalizes Muslims, Roma, Black people, then it must be because those people are doing something wrong. Despite the origin of the very idea of race in Europe and the explicitly race-based policies of both its fascist regimes and its colonial empires, the dominant assumption is that this had no impact on the continent itself and its internal structures. The underlying logic, of course, is deeply racist. It assumes that race and racism exist only where non-white people are and that there are none in Europe, except temporarily. Attempts to point to the ongoing relevance of race for European identity formations, usually by activists and scholars of color, are frequently framed as enforcing an Americanized political correctness supposedly meant to silence necessary critiques of migrant communities and their supposed innate sexism, anti-Semitism, and homophobia. The continental European left has produced no theory of racialization. Instead, class is central, which is quite ironic, since class is deeply racialized in Europe. Feminist and queer groups are not exempt from this process. They often support the homonormative incorporation of sexual difference as a means to differentiate Europe both from the US as more liberal and from the global South as intolerant and backwards in every respect. As a result, Europe in its national and post-national variations is maintaining a normalized Christian or Christianized secular whiteness through an ideology of color blindness that claims not to see race, and thus both stabilizes and silences race as a framework inherent to Europe, while using race, currently often expressed through religion and culture, to constantly produce non-white populations as necessarily non-European. Instead, terms like third or fourth generation migrant affirm that racialized populations permanently remain aliens from elsewhere. In international politics, this view of Europe as beacon of human rights is used as justification for so-called humanitarian interventions in the global South by the US and Europe-led NATO. These humanitarian interventions are supposedly necessary to control a chaotic third world, but are really used to cement Western domination threatened by liberation movements in the global South. And there are many, many examples of that. Somalia would be one, Egypt would be another. That is, the violence in the global South, which is often caused by Western economic exploitation, is presented as the result of the primitive, chaotic, violent nature or culture of people of color. The same violent nature is ascribed to people of color in the West. They become a threat to human rights from which Europe needs to be protected. See, for example, the frequent claim that people of color and Muslims need to learn how to act civilized before they can become European. White Christian or Christianized secular Europeans, on the other hand, are assumed to already possess this civilized nature. That is, they are the ones whose behavior is never examined and who have the unquestioned right to decide who is European and who is not. The discourse on people of color and Muslims as un-European focuses on issues of gender and sexuality. That is, their supposedly pervasive cultural misogyny and homophobia. Muslim minorities, as the last remaining source of gay and lesbian victimization in Western Europe, retrospectively validates queer suffering as it is finally recognized by the majority, which now becomes the protector rather than the persecutor of the LGBT minority. Just like mainstream Europe protects Muslimas from Muslim men and the Jewish community from a Muslim anti-Semitism deemed more dangerous than its European version ever was. Even queer organizations critical of homonationalism become complicit in this process by failing to address structural racism as foundational for post-World War II West European societies. As a result, queerness becomes tolerable if it is perceived as being compatible with a neoliberal project that produces new forms of exclusion. The seemingly fluid, but in fact strictly hierarchical spatial governance provided by the neoliberal cosmopolitan city tolerates poor communities of color in its cityscape, but contains and isolates them to ensure that movement takes place only in one direction, conceiving of them primarily as a resource of labor, food, sex, and other commodities valued by the consumer citizen, including the queer consumer citizen. Urban commercialized pride events like Europride are a prime site of gay cosmopolitan tourism, equating mobility with the ability to consume transnationally, often expressed in the ability to consume and or save queers of color. While the European Muslim and communities of color as a whole are judged to present the wrong, that is misogynist, homophobic type of heterosexuality, this dichotomy puts racialized queers in an even more impossible position. Communities of color appear as by default heterosexual, the queer community as by default white, reflecting a global discourse of progress and human rights in which the white West invariably takes the lead. Maybe not always progressive enough, but certainly always more so than anyone else. Within this binary discursive formation, the Western LGBT community has the role of civilizer, while racialized queers have nothing to offer, as they, like all people of color, are perceived as products of a culture that is fundamentally inferior to the secular West, making them necessarily un-European. Lesbians and trans people of color in particular have to not only deal with structural racism, sexism, homo and transphobia in society in general, but simultaneously with these issues within activist communities. They don't ever have the luxury to take it for granted that their voices will be heard and their interests included. The solidarity that they are asked to provide to feminist, LGBT, Black, Muslim communities is often not granted to them in return because they remain deviant even in these communities. Nonetheless, lesbians and trans people of color remain key to anti-racist, feminist, and queer movements, often doing the least valued work while being faced with constant ignorance and aggression. At the same time, they have also formed their own spaces of resistance, from the German Black Women's Collective ADEFRA or the Dutch Black Lesbian group Sister Outsider, both founded in the mid-80s, and active simultaneously in feminist, queer, and anti-racist movements, to the British Muslim Lesbian Trans Collective SAFRA, which works with the Muslim community as much or more than with white queer groups, or the Berlin Cutie Park activists challenging the racism within the radically anti-homo-nationalist but white alternative Pride March just a couple of weeks ago in Berlin. All of this activism receives little attention, and if so, often hostile in form of claims of reverse racism or weakening the movement, and often gets erased in claims that they are not yet ready to speak for themselves and thus need to be helped by organizations that they are excluded from. Another example that is not in the text, I apologize, but for example, Germany and Turkey had a labor agreement since the 1960s that brought laborers temporarily to Germany. In the 1980s, there was a military coup in Turkey with a wave of repression. So a lot of feminist and left Turkish, and in particular Kurdish activists, used this treaty between Germany and Turkey to come to Germany and to continue their political work. And I remember very well that a lot of Kurdish and Turkish feminists were among the group that established the first women's shelters, the first women's centers in Germany. In the 1990s, state funding for those centers and shelters was cut. And what happened very often is that white feminists used their white privilege, kicking out the migrant feminists working in these institutions so that they could keep their jobs. And now, another 10, 20 years later, people don't even remember that at the beginning of the German feminist movement, there were women of color. So it's not that women of color are invisible. They are made invisible in an active process. So this, and this is again in the text, I'm sorry, this leads to the realization that we must start our political work from the recognition that multiple systems of oppression are in operation and that it is impossible to dismantle homophobia without dismantling racism, which cannot be dismantled without dismantling sexism, and so on. This does not mean that particular struggles cannot be prioritized, but it means that inclusion in the existing system is not enough. The system itself needs to be changed. And this applies, for example, to the question of same-sex marriage as a civil right, which is a discourse that you have here, but also very much in the US. And I just want to briefly quote black lesbian feminist Casey Cohen, who said, "Civil rights do not change the social order in dramatic ways. They change only the privileges of the group asserting those rights. Homophobia does not originate in our lack of full civil equality. Rather, homophobia arises from the nature and construction of the political, legal, economic, sexual, racial, and family systems within which we live." And that again means we had the example this morning that same-sex marriage helps people who have no right of residency otherwise. And it's totally, that's true, and it's important, and it's totally fine to use that right. And the example that was given in the morning was a woman from Indonesia. But we also should be aware of the fact that this does not solve the problem. And the problem is homophobia in Indonesia, but the problem also is restrictive immigration policies in the European Union. And the two of them are connected. Indonesia seems to be, is one of the prime sites of neo-colonial intervention. Since independence, Western states, and in particular Europe, in particular liberal states like the Netherlands, have intervened in internal affairs in Indonesia and have supported repressive regime. So it's no coincidence that the situation in Indonesia is as it is. So all of these intersecting systems need to be changed before liberation can be achieved. And in order to form successful coalitions, we need to be honest about the ways in which these intersecting power structures affect us differently and create relative privilege for some of us because of our gender, race, religion, or social class, privileges for which one has to take responsibility if one wants to be an ally. And I have a little bit more, but I think I'm over time already, so I'll stop here. Merci beaucoup.
Merci Fatima de nous avoir dressé un tableau des problématiques et des tensions des LGBT et personnes of color en Europe. Et on voit bien que le néolibéralisme, le néocolonialisme, le fascisme, les rapports, tous ces rapports de domination sont imbriqués et ça pose des questions cruciales. Et notamment celle de l'impossible, comme tu l'as dit, l'impossible position des queer of color. Maintenant, on va passer avec Shiva, à un point de vue plus localisé en Allemagne. Tu vas nous parler, voilà, à la fois, comme tu nous as dit, Fatima, le problème aussi, souvent, ce n'est pas que les lesbiennes of color n'existent pas, c'est qu'on les rend invisibles. Donc j'imagine que tu vas pouvoir développer ce que vous faites en Allemagne. Voilà, je te passe la parole.
Je m'appelle Shiva. Bonjour et salam, chers sœurs, lesbiennes, femmes, collègues et tous ceux qui sont présents ici. C'est une joie pour moi d'être ici devant vous et d'avoir le privilège de parler. Avant de commencer, j'aimerais mettre l'accent sur le point qu'il est important d'éviter des paroles et comportements de discrimination, d'éviter des paroles, discrimination partout. Plus précisément, ici aujourd'hui, pour que tout le monde se sente bien d'être ici. Comme je l'avais lu ci-dessus, je commence par présenter la situation actuelle du racisme en Allemagne. La structure du racisme en Allemagne ressemble presque à celle des autres pays européens. Tous ces pays basent leur structure sur le colonialisme. Nous assistons en Allemagne au racisme dans tous les domaines. Par exemple, domaine d'éducation, d'emploi, la justice, bref, dans la vie de tous les jours. En plus du racisme, nous, femmes of color, sommes atteints du sexisme, mais différents de celui des femmes blanches. D'après mes expériences, l'Allemagne souffre d'une amnésie parce qu'il ne se souvient pas qu'il a une histoire colonialiste et qu'il a joué, plus précisément à Hambourg, d'où je viens, un grand rôle dans le commerce triangulaire. Cette histoire n'est pas racontée, ni enseignée à l'école, ni écrite dans les littératures allemandes, ni montrée à la télévision. Maintenant, je veux parler de mes expériences faites dans des groupes antiracisme composés de blancs. Depuis que j'étais élève et même à l'université, je me suis engagée politiquement. J'étais toujours dans des groupes composés que de blancs. Je ne me suis jamais sentie à l'aise dans ces groupes de blancs et j'ai fini par constater pourquoi. Une des raisons est que j'étais la seule woman of color dans ces groupes. Une autre est que ce n'était pas possible de parler des actes racistes qui se passent au milieu des groupes même. J'ai dû même lutter pour pouvoir étudier, car ce n'est pas évident que les personnes of color étudient en Allemagne. Après des années à l'université, j'ai suivi un jour d'un séminaire une professeure que j'aimais bien. D'une manière ou d'une autre, ces thèmes me sont vraiment attirés, bien que je ne les avais pas très bien compris. C'est dans ce séminaire que j'ai appris qu'il existe des théories sur le racisme. Alors, c'était comme des escailles qui sont tombées de mes yeux. J'ai commencé par m'engager sur le thème du racisme. Au fil du temps, j'ai fini par sortir de tous ces groupes et maintenant, je ne suis plus dans aucun groupe. Cette décision de ne plus appartenir à un groupe, c'est une décision que je fais consciemment. Il m'était demandé de parler dans mon discours sur la situation des lesbiennes of color en Allemagne. Il existe certes en Allemagne l'homosexualité des blancs et celle des people of color. La société allemande n'acceptait pas l'homosexualité des blancs, pire celle des personnes of color. Il existe beaucoup de groupements de lesbiennes des blancs entre griffes des Allemands, mais c'est difficile à un people of color POC, je veux dire, de se joindre à ce qu'elle elle ne traite pas des thèmes concernant des lesbiennes of color. Presque aucun blanc allemand ne pense qu'il existe aussi des lesbiennes of color en Allemagne. Les lesbiennes sont presque partout mal vues dans le monde et comme en Allemagne le racisme est très avancé, c'est encore difficile de trouver des associations et groupements de lesbiennes of color. Dans certains secteurs où on trouve des artisans et des intellectuels, l'homosexualité de l'homme of color est reconnue et on peut accepter. Mais les lesbiennes of color ne sont pas du tout reconnues ni acceptées, bien qu'il existe en Allemagne depuis des décennies l'histoire des lesbiennes of color. Si deux femmes lesbiennes of color s'aimaient, la société allemande ne reconnaît pas leur histoire amour, mais elle dit simplement qu'elles ne sont que des copines et que les lesbiennes of color sont très proches l'un des autres. Maintenant, je veux parler un peu sur le thème de révéler son homosexualité. Si nous aimerons parler de notre homosexualité, nous devons le faire dans certains secteurs, comme dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos amitiés et dans nos alentours. Omila Girl écrit son mémoire de doctorat sur les lesbiennes of color en Allemagne. Elle dit que ces lesbiennes of color n'arrivent pas à parler de leur homosexualité car elles ont de peur de perdre le soutien de leur famille. Car nous, lesbiennes of color, nous avons besoin de soutien de notre, je veux dire, pas les nôtres, les people of color, les lesbiennes of color. C'est pourquoi cette peur est justifiée. Une partie des objectifs du système impérial et patriarcal des Blancs est de nous diviser et que nous restons divisés. Si nous ne sommes pas unis, nous ne représentons pas un grand danger pour le système. C'est pourquoi c'est très important de voir ce que nous devons faire pour ne pas nous perdre de vue et ce que nous devons faire pour nous retrouver mêlés s'il arrive à nous diviser. Il existe de toute façon au moins des groupements de lesbiennes of color en Allemagne qui sont Adevra et GLED. Ces organisations sont de très bonnes organisations et traitent de importantes questions des lesbiennes of color. Le problème est qu'on ne les trouve pas dans tous les villages en Allemagne. En Hamburg, d'où je viens, il n'existe malheureusement aucune de ces associations de lesbiennes of color. Je trouve très nécessaire d'avoir un groupe qui soutient pour pouvoir de temps à autres se rencontrer et parler de nos expériences et pour pouvoir nous fortifier les uns les autres. Ça sera très bien si nous pouvons utiliser les structures de la culture de lesbienne qui existe déjà en Allemagne et l'élargir et écrire pour la génération à venir. Les initiatrices et les personnes qui ont écrit Farbe bekennen, Afro-Deutsche Frauen, auf den Spuren ihrer Geschichte, ont fait en partie ce devoir. Ce sont Mai Schulz et Katharina Oguntoye. Il est aussi le cas de Piggy Piche dans son livre qui vient de publier et qui s'intitule Euer Schweigen schützt euch nicht, Audre Lorde und die schwarze Frauenbewegung in Deutschland. Il existe depuis début 1990 ce que nous nommons des séminaires d'empowerment. Ces séminaires sont faits par les POC pour les POC. Dans ce séminaire, il s'agit exactement de ce que je viens raconter. Créer une place d'où nous pouvons nous fortifier les uns, autres pour de qui le monde devienne ce qu'il veut vraiment être. Il y a eu ces dernières deux années à tel séminaire d'empowerment en Allemagne pour les POC, les Women of Color, pour les Santi et Roma of Color. Mais il n'y a eu jusqu'à maintenant aucun séminaire d'empowerment en Allemagne pour les lesbiennes of Color. C'est pourquoi j'aimerais moi-même faire un séminaire l'année prochaine pour lesbiennes of Color pour qu'encore plus de nous s'assemblent et ces gens s'échangent des expériences. Car nous vivons chaque jour le système patriarcal des Blancs qui nous influence et qui essaye de nous dominer. J'aimerais jeter un regard théorique sur comment nous pouvons nous protéger contre cela et comment nous fortifier. J'essaie d'être très vite. C'est un plaisir pour moi d'arriver sur ce point. Je pense que nous, Women of Color, sommes des experts de tout ce qui nous arrive. Je n'aimerais pas que les Blancs continuent par nous décrire, mais plutôt que nous-mêmes, nous parlons de nous. Daisy Hernandez dit dans ce livre intitulé Colonizes, It's important for women of color to write. We can't have someone else defining our lives and our feminism. Je suis en train d'écrire mon mémoire sur le même thème. Pour mon mémoire, j'ai dû faire des interviews avec des women of color qui m'ont vraiment inspirée. Dans ces interviews, ces femmes parlent d'avoir quitté des lieux lorsque nous écoutons que ces femmes ont dû quitter ces lieux, nous personnes qu'elles ont démissionné. Mais je pense que nous devons regarder cela autrement. Le fait de quitter, il est une très forte active décision. Évidemment, nous devons vraiment lutter, mais pas chaque lutte. Surtout, ces luttes nous demandent beaucoup d'énergie. Grada Quilomba, une professeure à l'Université de Berlin, que j'apprécie beaucoup, dit que nous, personnes of color, nous nous occupons de trop de lutter contre l'oppression des Blancs. En faisant cela, nous n'accordons plus de temps à nous-mêmes pour nous fortifier. Elle parle d'un moment de vide. Après ces luttes, il existe un moment de vide. Cela se passe toujours comme ça parce que nous sommes focalisés sur le système des Blancs. La professeure Bell Hooks dit cela, je cite, « We are trained to oppose, we constantly oppose. » Nous devons refuser l'oppression, mais c'est important de combler de vide parce que le fait d'être contre les choses, contre quelque chose, veut dire aussi réagir. En réagissant, nous faisons de nous-mêmes des objets. C'est pourquoi nous devons changer notre perspective pour redevenir des sujets et agir comme des sujets pour que nos actions ne soient pas dépendantes des détenus de pouvoir. Nous devons cesser de vocaliser les Blancs et commencer à penser à nous, c'est-à-dire prendre soin de nos besoins et de voir ce que nous pouvons faire pour que nous allions mieux lorsque nous faisons ces mauvaises expériences du racisme et du sexisme. En faisant cela, nous nous accordons automatiquement plus de place et plus de libre pour agir. Nous pouvons enfin nous occuper de ce que nous voulons vraiment et ce que nous pouvons faire. Je pense qu'en faisant cela, nous trouvons des nouvelles idées et nous pouvons mieux nous découvrir. Ouais, c'est le. Merci beaucoup.
Okay. Désolée pour. Le temps nous est compté. On passe tout de suite à Marthe. Merci beaucoup, Shiva.
Merci. Waouh. Je suis assez impressionnée parce que c'est la toute première fois que je parle devant un parterre de femmes comme vous. Ça me donne l'impression comme ça d'être dans un harem, sauf que là-dedans elles sont moins vêtues. Je vais essayer dans les 5 minutes qui me sont dues de me concentrer pour pouvoir vous dire 2-3 mots. Donc soyez rassurés, peut-être qu'après je vais revoir à nouveau les images du harem. Donc, bonjour, bonsoir. Donc, je suis très honorée de parler devant vous ici. Je remercie les LOX et le CLE de nous avoir invités. Donc, je vais aussi demander aux traductrices de m'excuser parce que je risque de ne pas être fidèle à mon texte. Et donc, je vais essayer de parler plus lentement à ces moments-là pour que vous ayez l'occasion de, voilà, de traduire pour les copines qui parlent anglais. Donc, avant de commencer, je vais faire quelques deux, trois précisions. Donc, sur un petit peu, parce que voilà, je viens de Belgique, comme vous l'aurez remarqué. Ça ne se voit pas, c'est sûr. Mais chez nous, là-bas, en Belgique, on a une terminologie qui est un peu différente de ce que vous avez ici en France et que mes copines LOX ont ici aussi. Donc, je vais vous donner deux, trois références lexicales et on va garder ça jusqu'à la fin du texte. D'abord, quand je vais dire Afrique et diaspora, ça voudra dire les Caraïbes aussi, UK, les États-Unis, etc. Et quand je dirais aussi homosexuel, ça s'entend lesbienne. Et donc, nous, on est une association qui n'est pas directement non mixte. Hein. Je vais faire sauter plus d'une d'entre vous, mais ce n'est pas grave. La raison est simple. Donc, nous parlons bien des questions homosexuelles en Afrique et dans les diasporas. Si le débat sur la question est récent, donc si la question existe depuis déjà des années, le débat est récent, donc la visibilité et le besoin de visibilisation aussi. Donc ce qui fait que pour nous, c'est pertinent de travailler ensemble, les garçons et les filles, puisque c'est une niche dans une niche, on va dire ça comme ça, et donc ça prend tout son sens. Donc en fait, notre association, elle a été faite avec 4-5 groupes de femmes à la base. Et puis, par la suite, donc, il y a des cercles concentriques comme ça. Le premier cercle, c'est des femmes. Le deuxième cercle, c'est des garçons. Le troisième cercle, c'est tous ceux qui ont envie de porter un coup de main à ce projet-là. Donc, alors, vous m'avez demandé de... Les LOX, donc, vous m'avez demandé de parler un petit peu de la situation des extrémistes en Belgique et notamment sur la question des homosexualités. Moi, j'étais un petit peu embêtée parce que les extrémistes, ce n'est pas directement notre cible, mais je vais essayer de mettre en perspective ce que nous faisons et qui pourrait contribuer à barrer la voie aux extrémistes. Donc, dans mon exposé, je vais le faire en trois gros points. Ce sera d'abord de montrer comment un festival comme le nôtre, le festival Massimadi, festival de films LGBT d'Afrique et diaspora, comment on aborde la question des discriminations croisées, mais aussi de ce que nous ressentons comme fondement commun au racisme, au sexisme ou à la lesbophobie, donc l'homophobie. Je vais bien sûr remettre notre expérience de ce festival donc en contexte des montées des extrêmes droites en Europe et en Belgique et vous expliquer comment nous situons par rapport à cela. Donc la Belgique et l'extrême droite, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est qu'en Belgique comme ailleurs, on constate une montée de l'extrême droite avec comme conséquence une radicalisation des discours des actes de discrimination envers les plus vulnérables, notamment les migrantes. En Belgique, et l'origine des partis extrémistes arrive aussi, date de la moitié des années 80, dans la mouvance de la création du FN ici en France. Dès lors, les partis d'extrême droite en Belgique francophone n'ont cessé de se créer et d'imploser. On constate dans le chef des partis extrémistes francophones un manque de structuration, un réel programme politique, comme l'on peut retrouver au sein de leurs homologues dans la partie néerlandophone du pays. Ainsi donc, l'extrême droite est présente en Belgique, surtout du côté flamand. En Flandre, d'ailleurs, l'extrême droite est ancrée depuis toujours dans les paysages politiques et a connu une très forte poussée entre les années 90 et les années 2000, avec de nombreux élus au niveau local, régional, donc le Parlement flamand, et au niveau fédéral. Je ne vais pas vous faire un discours sur la partition de la Belgique ici, parce que ça va être très compliqué, mais j'espère que vous savez qu'on a un nouveau roi à partir de demain. Donc ça, c'était pour un petit peu le contexte. Donc, dans une ville comme Anvers, par exemple, l'extrême droite a obtenu, dans les années 90, jusqu'à 33% des voix aux élections communales et n'a été exclu au pouvoir que grâce à un cordon sanitaire mis en place par l'ensemble des partis politiques de droite et de gauche. Donc actuellement, le principal parti d'extrême droite flamand, le Vlaams Belang, donc c'est l'ancien Vlaams Blok, est plutôt en perte de vitesse, surtout en raison des dissensions internes et des problèmes de leadership. Ce qui explique aussi sa perte de vitesse, c'est la montée en force d'un parti nationaliste flamand, la NVA, qui est un parti séparatiste avec un programme économique néolibéral et de fortes tendances populistes. Depuis l'année passée, la NVA est notamment au pouvoir dans la ville d'Anvers et révèle par la pratique des politiques discriminantes à l'égard des étrangers. Donc je ne vais pas les faire ici, peut-être que dans le débat, je pourrais vous en citer deux exemples. On assiste progressivement à un durcissement de la droite et d'autres partis dits traditionnels, y compris des partis de gauche aussi, sur les questions liées aux étrangers, notamment, et l'on voit apparaître des partis de droite, que vous appelez ici en France décomplexés, qui assimilent l'immigration à l'islam et affichent une islamophobie évidente. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut observer par rapport aux questions homosexuelles? En fait, l'ouverture du droit au mariage pour les couples, je ne vais pas retourner, comment on dit, le couteau dans la plaie, mais bon, il faut quand même en parler. Donc, l'ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe existe en Belgique depuis 2003 et l'adoption, elle, depuis 2006. Ces lois ont été votées grâce au plaidoyer associatif et à une coalition gouvernementale qui le permettait à l'époque. Cela a donné lieu à des débats, mais sans aucune mesure avec la violence qu'on a pu observer en France ces derniers mois. Certaines questions, surtout liées à la filiation, la gestation pour autrui, restent à régler, car elles sont encore discriminantes à l'égard des couples ou parents de même sexe. De même, récemment, la Belgique a renforcé le dispositif législatif pour punir davantage l'homophobie. Au niveau des textes et des institutions, la Belgique a donc bien avancé. On est devant vous, je suis désolée par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas un sujet utilisé par les partis de droite ou d'extrême droite, donc la question homosexuelle. Au niveau du quotidien, bon, évidemment, on constate que les lois ne règlent pas tout. On observe d'ailleurs une recrudescence, ou plutôt une visibilité, ou une augmentation des témoignages des crimes à caractère homophobe, particulièrement en Wallonie. Mais on peut dire que l'extrême droite, du moins les partis, n'en font pas un sujet de cette question-là, comme je disais tout à l'heure. Et du côté associatif non plus, le mouvement LGBTQI n'a pas non plus comme cible explicite les partis de l'extrême droite en Belgique. En tout cas, elle est moins présente que l'Église catholique, qui est par exemple notre cible première. Donc malgré tout ça, il faut rester vigilant. Donc comment est-ce que nous, on fait pour rester vigilant? Tout ceci m'amène donc à vous parler et à vous expliquer ce que c'est le festival Massimadi. Donc le festival Massimadi, et comment nous, on pense contribuer, même si ce n'est pas notre objectif, je disais tout à l'heure, à la lutte contre l'extrême droite et la radicalisation des discours contre l'autre. Donc Massimadi, c'est la contraction de deux mots de créole haïtien qui veulent dire Massissi et Madiviné, donc PD et Gwin. Donc c'est une contraction donc, de Massissi et Madiviné. Donc c'est un mot qui nous vient de l'association Arc-en-Ciel d'Afrique, qui est au Québec, donc qui est l'association avec laquelle nous travaillons en partenariat avec ce festival. Eux organisent ce festival depuis 5 ans maintenant. Et donc, ils ont fait cette contraction pour s'approprier et s'identifier donc, à ces notions-là. Donc, c'est donc un festival de films et documentaires d'Afrique et des diasporas dont nous avons organisé la première édition au mois de mai dernier à Bruxelles. Nous sommes donc en train de préparer la prochaine édition. Et pourquoi ce festival? Donc, ce qui nous a amené à créer le festival, c'est que dans tous les festivals qui traitent des questions LGBT ou des festivals qui traitent des questions Afrique et diaspora, nous avons eu comme un manque des films qui traitaient de la question spécifique. Ou alors, lorsque les films étaient présents, c'était souvent sous forme de victimisation ou sous forme de, voilà, d'un truc exotique, ce dans quoi on ne se retrouvait pas du tout. Et donc, au lieu d'attendre, il nous a semblé donc nécessaire de, voilà, de prendre le taureau par les cornes et de créer ce festival nous-mêmes. Et il nous semblait aussi qu'il y avait d'autres choses à dire. Et c'est ce qui nous a donc donné envie de créer ce festival en s'inspirant de celui de Montréal, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que l'on veut faire, c'est parler des manières dont se vivent les homosexualités féminines et masculines, des Africaines et des Africains, et des Noirs, quel que soit leur pays de résidence, les questions des identités et de l'intersection origine, le genre, la classe sociale, sont au cœur de la programmation de ce festival. Donc, on voulait aussi casser cette image d'une Afrique soi-disant homophobe, et donc forcément des communautés noires de la diaspora homophobe, ce qui est évidemment une problématique plus complexe que cela. Donc les réalités sont complexes, je disais, même si les parcours sont comme partout semés d'embûches. Chaque société doit trouver son chemin par rapport à tout ça, au fait de le vivre, au fait d'en parler ou pas, au fait de le reconnaître sociétalement, etc. C'est pour cela que nous avons choisi des films qui abordent de l'intérieur les questions d'orientation sexuelle dans les communautés noires et, on va dire, non blanches. Hein, dans les communautés noires, ce que l'on voulait faire aussi, c'est un festival pour réfléchir à ces questions, mais aussi pour se divertir et se rencontrer. Les enjeux de ces moments-là, c'est de stimuler, de tisser des liens, de faire des amis, des amours, créer les rencontres qui pourraient ne pas se faire autrement. Donc, en quoi donc pourrait-il contribuer à lutter contre l'extrême droite? Tout d'abord parce que Massimadi, c'est une affirmation, donc c'est une appropriation de quelque chose. Qu'il y a évidemment des homosexuels et lesbiennes dans les communautés noires, mais bon, ça, on n'avait pas attendu Massimadi pour le savoir. Mais par contre, Massimadi affirme qu'il y a une réflexion au sein des communautés noires et chez les lesbiennes sur ce qu'est être homosexuel et noir, être une femme, donc. Autant de caractéristiques que l'on sait propices à la discrimination. Donc, afin de visibiliser qu'il y a une réflexion et des créations artistiques, déjà, ça va être chaud, là. Donc, en plus, tu me perturbes, donc je prends une minute en plus. Donc, affirmer et visibiliser qu'il y a une réflexion et des créations artistiques, des expressions culturelles sur ces questions par ceux et celles qui sont concernés au premier plan, c'est prendre une place dans l'espace public. Et cela, ça contribue à couper court aux fantasmes, préjugés et autres qui pourraient être lancés ou instrumentalisés par l'extrême droite. Le festival Massimadi ne se veut pas un festival informatif à l'intention, disons, des blancs hétérosexuels. Au contraire, sans en faire un cercle de réflexion fermé, Massimadi s'adresse explicitement à ceux et celles qui sont concernés par la question des homosexualités genre transgenres dans les communautés noires, et donc de pouvoir proposer des modèles, des figures d'identification à ces personnes-là. Donc en montrant ces différents films, le festival cherche à partager des regards et des expériences différentes sur ces questions et surtout à banaliser ces expériences. Nous pensons que cette réflexion et cette banalisation contribuent à l'acceptation individuelle et que c'est souvent là une condition essentielle à l'implication dans l'action collective pour lutter contre les discriminations et le rejet de l'autre, discours classique de l'extrême droite. Et puis on voit beaucoup l'extrême droite et la droite dure instrumentaliser les questions homosexuelles comme féministes d'ailleurs, à des fins islamophobes. Or Massimadi montre des films où l'on raconte justement d'autres réalités sur les manières dont se vivent les homosexualités, notamment dans les communautés musulmanes noires. Et donc, en faisant cela, on espère contribuer à couper cette mauvaise herbe sous le pied de l'extrême droite. Encore deux petites minutes. Donc, comme vous l'aurez compris, Massimadi n'est pas un festival qui se positionne explicitement en lutte contre l'extrême droite, mais qui, très concrètement, participe à son petit niveau, à contrer ce qui fait le terreau de l'extrême droite, justement, et de la propagation de ses idées à savoir le mécanisme de domination et de pouvoir, le repli identitaire, la peur de l'autre et les stéréotypes. En écho aussi à tout ce que j'ai entendu hier, vous l'aurez compris, notre cible première, c'est bien vous, mes sœurs blanches, féministes, lesbiennes. Nous appelons à la décolonisation de vos esprits, de vos cœurs, de vos corps. Afin que se crée une véritable solidarité. Donc, pour terminer, donc, nous posons indirectement la question de comment décloisonner les luttes et faire en sorte que tous les combats des femmes, quelles que soient leurs orientations sexuelles, identité sociale, identité de genre, conditions sociales et j'en passe, il est urgent d'apporter une réponse à cette question pour enfin rompre avec ce processus d'invisibilisation, synonyme pour moi de rejet pur et simple. Je vous remercie.
Merci Marthe. Je pense qu'on va passer tout de suite aux questions.
Donc d'abord, merci Lox pour cette analyse profonde, enfin très rapide mais profonde. And thank you, Fatima, if I can say so, for pointing out the real sources of the problems. Okay. Donc merci pour avoir, c'est même encore plus difficile en français. Merci pour avoir fait ressortir les, si je puis dire, les vraies racines ou les sources du problème de la montée de l'extrême droite en relation avec l'invisibilité of color en Europe. Et j'ai une question pour Shiva. Je vais utiliser un mot qu'a prononcé Mourouni, je vais utiliser le mot évolution. Donc, je ne suis pas une jeune personne, mais une très jeune activiste. Et je veux savoir, est-ce que tu peux rappeler rapidement comment a évolué, justement, je ne vais pas parler de montée, mais d'évolution de l'extrême droite en Allemagne. Et donc, moi, j'ai connu très récemment ADEFRA à travers le film d'Audrey Lorde. Donc, vraiment, c'était au tout début, donc avec la prise de connaissance, la prise de conscience. Et quand tu as parlé d'ADEFRA, et tu parlais au futur, donc des projets au futur, et j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment en fait évolué. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une régression? Est-ce qu'il y a une évolution?
Est-ce qu'on peut prendre une autre question?
Bonsoir. Je voulais d'abord remercier ces femmes extraordinaires qui sont à la table, qui ont une intelligence de raisonnement, une intelligence de cœur. Formidable, d'abord. Et moi, donc, je leur propose, en tant que vieille lesbienne de 64 ans, de mettre à leur disposition toutes mes archives, sans exception, puisque je suis membre du mouvement lesbien en France, et non pas de France, depuis 1973. Et donc, j'ai tout un capital de documents que je vais leur donner comme héritage, et enfin, je vais pouvoir prendre ma retraite et partir en vacances. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci.
Merci Dalila, on te prend au mot. Hein. Donc, on va débarquer chez toi avec des caisses.
C'est une question pour les Lox et précisément Moroni. Est-ce que tu pourrais reprendre une période où ton activisme antifasciste, féministe a énormément compté? C'est le début de la reconstruction avec Ralph Ron et tout ce qui a pu se passer au milieu de ces années 90. Et bon, c'est peut-être très long, mais l'évolution, comme tu l'as commencé à le dire, avec aujourd'hui, ou les comparaisons. Voilà, c'est-à-dire ces années 90 et aujourd'hui. Pour celles qui s'interrogent sur comment et pourquoi et où on en est, si, faire un peu un lien et proposer des choses.
Au premier, je ne suis pas dans l'ADEFRA. C'est un mal compris qu'il était écrit là-bas. Mais ton question était sur le projet qui va devenir dans le futur. Tu veux dire, qu'est-ce que d'ADEFRA veut faire maintenant ou...
Alors, déjà, je pensais que tu étais vraiment d'ADEFRA, mais bon, puisque tu en parles, je voulais savoir, depuis justement les années 80 et 90, tu en as parlé au futur. Donc, j'ai l'impression que depuis les premières rencontres du groupe, c'est resté en l'état, en fait. Et comment ça a évolué?
En fait, c'était comment Adevra s'est créé. En fait, c'était Audre Lorde qui était invitée à Berlin, à Humboldt-Universität. Et il était plusieurs femmes de lesbiennes of color qui, elles, invitaient à Berlin. Et oui, c'était comme ça que... can I say it in English? I don't find the word, please. All these women come together and speak about the, I don't know, I think Audre Lorde, it's calling international feminism, that the women on the world comes together and tries to fight against this all, this system. This Adevra, it's une production de ces femmes et Audre Lorde. Après de parler et être ensemble, de réfléchir, après des réflexions de cette femme, ça s'écrit, je pense que. Si quelqu'un savait quelque chose en plus, vous pouvez bien sûr.
Est-ce que je prends encore une autre question et après vous répondez?
I wanted to briefly say something about that because I was actually at the first Adevra meeting, which was 1986 in Bremen. And it's true that Audre Lorde's presence in Germany was very important for black Germans, but there was black German organizing before Audre Lorde came to Berlin. So it was not she came from the US and started the movement. The movement was already there, but she helped to give it a voice, in part because white feminists listened to her, because she was, you know, she was a famous African-American feminist. So she, instead of talking herself, gave the space to black German activists, which was great, but it was not that she started the movement. So that's all that I wanted to say. And Adevra started 1 year after a mixed black German organization, and the two of them always were in close contact. So you had, for 10 years at least, until the mid-90s, lots of debates about feminism in the black German movement, also about lesbians, which was very contested. There were lots of problems, but there was always a lesbian voice because Adevra was one of the first black German organizations. And they are still around, they're still active. So they're one of the oldest feminist organizations also.
Oui, excusez-moi, tout à l'heure je suis allée un tout petit peu vite. Je vais essayer de répondre à la question de Michel sur les années 90 et le Front National. À cette époque-là, j'étais pas bien vieille. Maintenant, j'ai grandi un petit peu. On a créé des réseaux. Ralph Front notamment, parce qu'il y a eu une avancée très dure de la droite, de l'extrême droite. Je parlais tout à l'heure de Marignane et de Vitrolles, c'est-à-dire qu'il y avait une offensive avec Bruno Maigret et Bruno Gollnisch qui étaient sur des positions de valeurs familiales et anti-immigrés, et aussi sur des positions très 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 anti-féministes. Dans un sens, ils étaient dans les réseaux pro-vie qui militaient contre le droit à l'avortement, contre notre libre disposition de notre corps. Et moi, j'étais déjà lesbienne dans cette époque-là. Seulement, j'avais fait le lien de si on nous enlevait le droit à l'avortement, c'était sûr qu'après on allait retourner au foyer et que c'était impossible de pouvoir se revendiquer lesbienne. Donc ce combat-là, il était très important dans les années 90 de militer front à front, vraiment sur une riposte pied à pied, c'est-à-dire dans les commandos anti-IVG. Nous organisions des commandos anti-IVG. Donc on s'est entraîné au lancer des œufs, au lancer des tomates. tout ça pendant que Xavier Dor et Claire Fontana, à cette époque-là, chantaient des cantiques pour nous embêter. Mais l'Ave Maria, je pense et les rosaires, on le connaissait assez bien à la fin. On a abouti, et ça c'est une grande victoire, enfin, moi je trouve en tout cas, au délit d'entrave à l'IVG, ce qui a permis que les pro-vie se calment un tout petit peu. Là, malheureusement, avec le retour du mariage pour tous et anti-gay et ces retours des ligues fascistes, ils ont repris du poil de la bête qu'on essaye, cette bête immonde qu'on essaye de remettre au garage. Mais de toute manière, sur des notions vraiment là, au-delà du féminisme, au-delà de l'antiféminisme, sur quelque chose de très lesbophobe, sexiste et raciste. Donc, du coup, nous, en tant que lesbiennes of color, nous, on va dans cette bataille-là, pas forcément sur la notion du mariage, mais en tout cas sur le fait de, on reprend la rue, quoi. On reprend la rue. Depuis que Marine Le Pen est montée au pouvoir et que elle a été intronisée à Blois et qu'elle a pris les rênes du parti du Front National, elle a commencé à dédiaboliser tout ça et à dire c'est chic d'être au Front National, je vois pas où est le problème et du coup assumer toutes ces lois racistes et tout ça. Mais ça n'a pas empêché le fait qu'il y ait que les ligues fascistes, notamment le GUD, notamment l'œuvre française ou l'Action française, de reprendre le pouvoir et d'être tout près de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous aviez vu les nouvelles à la télévision. Ils étaient vraiment, ils nous ont rejoué le 6 février 34 dans le sens de prise de pouvoir avec l'UMP. Qui ne se lassait pas de rebondir sur ces revendications-là. Et ils étaient presque ils ont frôlé l'infraction homophobe, l'infraction raciste, et on se demande bien pourquoi Hollande n'a pas réagi dessus, parce que ils sont allés manifester l'UMP avec les catholiques traditionnalistes de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui, je rappelle, squatte cette église et que nous devons la reprendre pour en faire une maison des femmes peut-être, mais en tout cas ce lieu-là il devrait pas en faire leur fief, quoi. Moi je me rappelle des images avec un député de l'UMP, l'archevêque de Beauvais qui tient Saint-Nicolas du Chardonnay, plus un membre de l'Action française, et tout le monde était lié dans cette même manifestation. Donc c'était quand même quelque chose de... par rapport à Ralph Hunt dans les années 90, là, il y a vraiment une résurgence très problématique. Et le danger, c'est pour ça que nous avons organisé ce débat-là, le danger était de pointer ça. Même si on est lesbienne, ou même si le droit à l'avortement, ou les nouvelles dispositions de disposer de son corps... je pense qu'on aura ce droit à l'avortement, machin, mais il faut absolument veiller à ce qu'on ne perde rien. Et ce droit-là est fondamental pour nous, puisque ça nous permet, nous, de lutter contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie maintenant. On l'a vu à Argenteuil, c'est clair. Ils ont fait le lien sur ces femmes-là. Ah oui, et ben voilà, et on prend d'autres questions, du coup.
D'autres questions ?
Merci. Moi, je souhaitais faire deux petites remarques. La première, c'était que je trouvais peut-être intéressant de donner deux exemples. Donc, Julie de Belgique. deux petits exemples de stratégies qui désolidarisent les alliances aussi, de stratégies de l'extrême droite pour désolidariser les alliances qu'on peut avoir entre différents groupes et entre différentes personnes. Pour les exemples, c'est que donc à Anvers, où le parti séparatiste vient de prendre le pouvoir et sort plein de réglementations communales assez incroyablement racistes et autres, ils ont ils ont notamment interdit le fait de montrer qu'on est homosexuel quand on travaille dans la commune, donc quand on a un accès public, sous prétexte que comme on ne peut pas montrer de signes de religion, il faut être absolument neutre, et donc on ne peut pas non plus avoir un t-shirt avec un petit drapeau arc-en-ciel ou des choses comme ça. Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas ça pose débat, et en Belgique je pense que ça fait un peu de débat quand même aussi, mais c'est aussi une façon parfois de dire, ah ben, on vous l'enlève ce droit-là puisqu'on l'a enlevé. Enfin, c'est une manière vraiment de désolidariser. Autre chose, ça a été de redistribuer l'argent autrement, c'est-à-dire qu'on a enlevé une enveloppe d'argent à une association de communauté arabe pour la donner à une association LGBT. Donc c'est une façon aussi de désolidariser comme ça les groupes, et je trouve que c'est important de connaître ces stratégies qui sont employées pour essayer de désolidariser et d'enlever les alliances entre personnes. L'autre remarque que j'avais envie de faire, c'est que pendant cette semaine j'étais quand même contente d'entendre de temps en temps le mot Rome qui est employé. Malheureusement elles ne sont pas présentes et on ne les entend pas plus, mais j'avais envie de dire aussi que effectivement il faut pouvoir soutenir les personnes invisibles ou qui sont pas là, mais il y a plus invisibles que les invisibles. Et surtout, je trouve qu'en France, d'autant plus en France et en Europe, mais en France le problème est vraiment incroyable, des gens du voyage. Les gens du voyage n'ont pas la même histoire ni les mêmes besoins politiques que les Roms, et en général on les mélange. D'ailleurs ici on les cite un peu comme ça dans quelque chose de nébuleux. Oui, on y pense, c'est déjà bien, mais j'aurais envie aussi de temps en temps que je trouve que concrètement au niveau de l'action, les Roms, il faut bien sûr les soutenir, etc. C'est un combat de plus longue haleine puisque c'est un niveau européen, donc c'est assez compliqué. Les gens du voyage en France sont des citoyens français, et or ils n'ont pas les mêmes droits que les citoyens français, et je trouve que là l'action pourrait être beaucoup plus rapide et efficace si une fois pour toutes on se solidarisait avec eux. Puis bon, c'était juste parce qu'il y avait une invisibilité encore plus invisible, et j'aime bien de le rappeler. Voilà.
Ok, André, on va prendre une autre quelqu'un.
Dalila.
Je voudrais parler de Marseille, parce qu'à chaque élection qui arrive, Marseille, comme par hasard, le monde entier se penche sur elle en disant « Waouh, 25% de la population vote pour l'extrême droite à Marseille, et tout le monde semble absolument fracassé. » Or, c'est un mensonge absolument inouï, et j'essaye de le défaire depuis que je suis là. Je l'ai fait pour 2002, je l'ai fait pour avant. Parce qu'en fait, le corps électoral de Marseille, déjà, c'est la moitié de la population. Il y a 862 000 habitants officiellement à Marseille. Un petit peu plus avec tous les cultureux qui sont arrivés d'un peu partout au monde pour travailler sur 2013 et même avant. Et donc, en fait, le corps social votant, quand on déduit à la fois la population étrangère et les jeunes d'origine étrangère qui ont dit « je ne voterai jamais » à Marseille tant que mes parents n'auront pas le droit de vote aux élections municipales, et qui sont extrêmement nombreux. Donc on arrive à un corps électoral peu ou prou, hein, j'avais des chiffres plus exacts en 2002, entre 160 000 et 200 000 habitants. Là-dessus, il y a les abstentionnistes, les votes blancs. Donc en fait, les 25% sont 25% de 125 000 habitants, je vous laisse compter. Donc moi, c'est une ville, bon, je ne suis pas originaire de Marseille, mais j'habite dans cette ville. Je n'aime pas le mensonge et les impostures, et je n'aime pas quelle est cette image d'être comme la ville de l'extrême droite, parce que ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais ce qui m'a stupéfait en 2002, c'est le nombre de lesbiennes qui me parlaient au bar, les 3G, pas les nouveaux 3G, aux 3G, qui me disait tranquillement, les yeux dans les yeux, nous allons voter l'extrême droite parce que nous ne voulons plus d'Arabes dans la ville, parce qu'ils sont homophobes, qu'ils nous attaquent le soir. Et moi, j'étais absolument sidérée d'entendre ça. Et je pense que c'est un phénomène qui se développe de plus en plus, notamment ici. Donc moi, je leur dis, qu'est-ce que vous venez faire dans une ville où, effectivement, la sociologie est telle que il y a 148 nationalités et 1100 ethnies. Si ça ne vous plaît pas, allez dans un village où il n'y a que des blancs et qui votent Front National alors qu'il n'y a pas un seul immigré. Merci.
Merci à toi. Alors, je voulais d'abord donner un exemple d'homonationalisme que j'ai lu dans la presse, d'une jeune lesbienne qui déclarait qu'effectivement, la PMA allait permettre de faire des bébés blancs et bien français, puisque ça serait du sperme trié à la source. Donc, je voulais juste quand même, ça fait partie aussi des raisonnements de certaines. Et par ailleurs, donc je voulais revenir sur le terme « les musulmanes ». Parce que la question par rapport au racisme anti-arabe et l'histoire de la guerre d'Algérie, et la question de savoir si aujourd'hui, quand on parle des « the women of color » et des musulmanes, quand on rajoute, on met l'un à côté de l'autre, est-ce que on n'utilise pas une stratégie qui a été utilisée, qui est utilisée aussi par les religieux, hein, toute tendance, pour ramener la question du racisme sur le terrain de la religion, et aussi pour invisibiliser les laïcs, les agnostiques des pays d'origine de culture islamique.
I just wanted to say briefly that I totally agree with the point about Muslim, and I should have explained that I usually, when I say Muslim, I mean culturally Muslim, and with which I mean that I think rather than Islamophobia, what people perceive to be Muslim in Europe faces racism. So it's not about how you practice a religion or if you practice a religion, but the idea is all Muslims are the same, all Muslim countries are the same. There is only one way to think and practice for Muslim people. That is the perception, and that's this perception is what I mean when I talk about Muslim. But I agree with you that it's very important to explain this, so that there are not misunderstandings, because one of the main problems is that everybody understands that not every Roman Catholic thinks like the Pope, but very few people who are Christian or Christian secular, because I believe secular people in Europe mostly are Christian secular, they're not secular. And at the same time, they deny the possibility to be from a Muslim background and secular. So this difference is also why this is really more about racism than religious prejudice. But, you know, I agree with your point, you're very right.
Non, c'est le problème des agnostiques, c'est-à-dire celles qui ne veulent plus être rattachées à la religion, et, alors que l'islam l'interdit, et qui prennent le risque de dire qu'elles sont laïques et agnostiques, et que c'est une position politique.
What I said is that I myself am not religious, and this is important for me, but a large part of my family is religious. They're Muslims, and when I hear how people perceive Muslims, I'm not going to separate myself and say, well, I personally am not religious. So I think, again, this is what it means to be a lesbian of color. You belong to many communities, and you have to make choices where you show solidarity. And even though, of course, I'm angry about homophobia in the Muslim community, I still am part of this community.
Moi, je voulais un petit peu répondre. Enfin, je pense, Chantal, l'extrême droite, n'importe où, comme ce soit en France, en Europe, ou dans le monde entier, moi je le vois en Inde, c'est de toute manière de créer l'ennemi intérieur. Et qu'est-ce qui est le plus facile, de créer l'ennemi intérieur qu'une femme musulmane voilée c'est de ça, et c'est de cette solidarité dont on parle. C'est pas du tout le... Enfin, nous on est là, on est athée, mais n'empêche qu'on est solidaire de toute forme de racisme, et on le dit bien avec un S, hein, enfin, c'est toute forme de racisme et contre la xénophobie et contre l'antisémitisme et contre tout ça.
Moi j'ai envie de dire pourquoi est-ce que je devrais, au nom de quoi est-ce que je devrais exclure une femme lesbienne voilée qui vient dans le groupe pour militer avec nous, au nom de quoi? même si je suis athée, même si je suis agnostique. Ben oui, donc voilà, donc si ça fait le jeu de l'extrême droite, nous, on ne peut pas faire autrement que de mettre des stratégies en place pour barrer ça, y compris d'accueillir celles qui ont envie de venir et qui portent le même projet que nous.
Et pour répondre juste à Dalila, mais juste très 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 vite, si effectivement Marseille n'est pas une ville où le Front National progresse et tout ça, et qu'effectivement il y a l'abstention et tout ça, et les gens qui ne votent pas par choix politique, comme les anarchistes ou les libertaires, il faudrait effectivement refaire les élections et on verra, ou les annuler et arrêter de voter, c'est ça?
Juste deux remarques, une par rapport à ce que Chantal essayait d'amener comme idée. Moi, il me semble que le débat, il est extrêmement compliqué. Parce que, évidemment, la division, elle est créée, elle est pas par hasard, elle est pas parce que c'est des débats complexes, il y a une instrumentalisation, il y a la création par les puissants d'une division entre opprimés et...
On est bien d'accord.
Voilà. Et en gros, moi, il me semble, la question, c'est en étant dans une perspective d'intersectionnalité, c'est-à-dire de s'attacher à pas simplement un groupe, mais la réalité complexe des oppressions qui se croisent, comment, tout en étant en solidarité avec des personnes agressées par l'extrême droite, et pas que par l'extrême droite, comme par exemple les femmes voilées, on ne sacrifie pas la lutte de femmes d'origine arabe, aux arabes, qui se battent contre les religions, l'extrémisme religieux, la liberté de ne pas porter le voile si elles ne le veulent pas, etc. Et là, il semble qu'il y a un nœud, il me semble, en tout cas en France, assez crucial, de comment on arrive à intégrer toutes ces données-là et à être juste et à pas s'aborder les luttes d'autres, et y compris de ces femmes arabes-là. Moi, je voulais pas intervenir là-dessus au départ, je voulais reprendre ce qui était dit sur l'IVG. On a fait un travail au niveau européen cette année pour regrouper des femmes, des féministes en fait, de différents pays, et on s'est rendu compte, on l'a reconstaté, reanalysé, que les attaques sur les droits à l'avortement sont énormes, vraies dans quasiment tous les pays en Europe. Les arguments qui sont donnés, ce sont des arguments religieux classiques, catholiques, extrémistes, anti-choix, voilà, la vie, tout ça. Il y a aussi un grand nombre d'arguments économiques qui sont donnés sur fond de crise économique et de politique d'austérité où, en gros, rembourser l'avortement, ça coûte trop cher. Et donc, les femmes ont qu'à être un peu plus responsables vis-à-vis de ça. Le troisième argument, c'est des arguments nationalistes. En gros, par exemple, en Turquie, il faut que les femmes turques fassent énormément d'enfants pour pas que les Kurdes, un jour, soient en majorité. Donc, il y a toute une excitation nationaliste autour de, en gros, l'assignation des femmes à ce rôle-là. Évidemment qu'en tant que lesbienne, on est, par ricochet, concerné par tout ce qui concerne les attaques sur les droits des femmes, l'autonomie des femmes, etc. Et en fait, par la lunette féministe de s'intéresser au droit à l'avortement, je pense qu'on... Il y a une montée des fascistes, des idéologies fascistes en Europe, dans énormément de pays. On le sait, beaucoup de Grèce. Il y a aussi des attaques contre tous les immigrés et toutes, et en particulier les femmes, et en particulier les femmes prostituées, qui sont inadmissibles. Mais il y a aussi des élites, entre guillemets, des élites ou des militants qui sont attaqués parce qu'ils sont juifs, ils ou elles. Donc on a aussi un regain de l'antisémitisme, c'est vrai aussi en Hongrie. Et... Bah, du coup, moi, en fait, vraiment la question que je me pose et que je vous pose, et à vous, lesbiennes of colors, mais aussi pas forcément, c'est, en tant que lesbienne, quelle place on a dans cette lutte contre le fascisme? C'est-à-dire, ça a été dit aussi, si on s'épuise à lutter pour les hommes ou pour tout le monde, on peut vraiment se perdre de nos priorités, de nos luttes. Du coup, qu'est-ce, en tant que lesbienne of colors, ou en tant que lesbienne blanche, ou en tant que... Voilà, ou en tant que lesbienne juive, quelle forme ça prend concrètement cette lutte-là qui semble prioritaire aujourd'hui?
Merci, je voulais juste relever que, d'abord, merci d'exister en tant que groupe, parce que je trouve que c'est vraiment très important qu'il y ait un mouvement antiraciste, qu'il soit aussi un mouvement antiraciste lesbien. J'ai assisté il n'y a pas très longtemps à un colloque du MRAP qui était sur le racisme anti-blanc. Et là, j'étais absolument atterrée parce que je me suis dit que les idées de l'extrême droite avaient complètement intégré, infiltré le mouvement antiraciste officiel, je dirais, c'est-à-dire celui qui est reconnu par les pouvoirs publics. Et je trouve que c'est une situation quand même hyper inquiétante de constater ça. Bon, en même temps, c'est pas si surprenant que ça, parce que en allant à ce colloque, j'ai réalisé qu'il n'y avait que des blancs dans l'organisation du MRAP. Et que c'était pas possible d'avoir sa place en tant que personne racisée dans ce mouvement. Et bon, du coup, il y a un nouveau mouvement antiraciste aujourd'hui qui semble être incarné par les indigènes de la République. Et je voulais savoir quels étaient les points de convergence, d'action commune éventuelle, et s'il en existait entre les LOCS et les indigènes, et comment ça se passait également avec un autre mouvement, SOS Racisme, qui est peut-être moins blanc, mais enfin encore que. Voilà.
Il y a une première intervention et une deuxième. Je ne sais pas si vous voulez déjà répondre à...
En fait, je suis un peu perturbée par ta question. Je sais de savoir comment est-ce que un mouvement lesbien puisse lutter contre les extrémistes. Moi, j'ai envie de dire, on est toutes des êtres pluriels. Je veux dire, tu milites pour être féministe, tu milites pour le mouvement lesbien, tu votes aussi, quoi. Je veux dire, quand t'es dans l'urne, je ne sais pas si tu votes extrême droite ou si tu votes à gauche ou si. Je vous dis, c'est les mêmes stratégies de lutte qu'on met en place. Et donc l'opinion politique, ça se construit aussi. C'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de. Je sais pas très bien comment répondre à ta préoccupation en tant que lesbienne pour lutter contre le féminisme, pour lutter contre l'extrême droite. Moi, je ne me pose pas la question en ces termes-là, sincèrement. Voilà.
Si vous voulez. Les indigènes de la République sont, en tout cas, Ouria Boutelja a tenu un discours qu'on qualifie d'homophobe, de lesbophobe, et même d'un point de vue féministe, c'est un peu absent de la réflexion. Du coup, c'est pas un discours qui nous parle. On se retrouve pas spécialement là-dedans et on milite pas avec ça. Sabrine, tu veux...
Oui, juste, mais vraiment pour conclure deux secondes. Encore une fois, ce genre de question, effectivement, voilà, c'est... Bon, on se connaît, donc forcément, je ne vais pas la prendre, on ne va pas la prendre comme une question d'opposition. Cela, bien sûr, tout à fait. Simplement, elle est très intéressante, puisque c'est une... il y a deux jours, on en a discuté, etc. Si je devais répondre par rapport donc, aux LOX et les indigènes, il n'y a pas de relation, hein, entre, ni de rapport entre LOX et les indigènes. Comme je l'ai dit aussi ce matin, lors d'un débat sur où on a abordé les alliances, les indigènes de la République ont, et c'est légitime, ont une priorité qui est la lutte antiraciste à travers effectivement le prisme de la colonisation, forcément plus renforcé avec effectivement l'histoire de la colonisation algérienne, et puis aussi sans forcément faire apparaître une intersectionnalité. Alors que nous, on ne peut pas prioriser ou on ne peut pas hiérarchiser les luttes. C'est, pour nous, il faut que cette intersectionnalité, en termes d'oppression que nous vivons au quotidien, nous souhaitons qu'elle soit aussi cohérente dans l'activisme. Donc c'est pour ça qu'on a une lutte décoloniale en articulant racisme, sexisme, lesbophobie avec une vision matérialiste.
Je voulais juste conclure juste deux secondes et demie. Le 14 et 15 septembre à Marseille a lieu les universités du Front National et je propose qu'on pourrait se retrouver là-bas, faire une contre-manifestation pour montrer notre divergence politique avec le Front National. On est lesbienne effectivement et bien sûr et of color évidemment. Alors là. Quand même, j'ai failli oublier. Voilà. Et parce que c'est les municipales l'année prochaine et qu'il va falloir, s'affronter.
Merci encore pour vos interventions. Le prochain débat, c'est sur l'activisme of color et la solidarité internationale. Donc vous revenez dans 5 minutes, truc comme ça.